On aurait pu rester au lit, se retourner dans des draps de la veille, hésiter entre des morceaux de coton et de soie, entre du poreux, du soyeux, du mou, ouvrir un œil, le refermer, faire des petits bruits, et puis grâce à ce bonheur qu'on appelle l'obligation, la vie professionnelle, les rendez-vous, le coup de pied au cul, on est debout. Et comme on est content, parce qu'on va vivre notre vie, on va vivre notre vie de jeune, de 7 à 77 ans. À tout de suite, grâce à Thierry Paré.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Près, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Il a eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouette-pouette la hurlette, tagada la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Bonjour à tous, bonjour Thierry.
Salut Édouard, bonjour tout le monde.
Oui. Thierry, vous êtes évidemment une machine à nous informer, mais il y a un être humain aussi.
Ah oui, je suis aussi une machine sexuelle, c'est vrai.
Yeah.
Ah pardon.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je suis sorti de mon...
Le tout c'est du harcèlement. Je trouve que vous me harcelez. Le journal.
D'autant que les infos sont pas spécialement drôles, hein, comme d'habitude. Un séisme de magnitude 7,2 a eu lieu ce matin au large des îles Fidji, déclenchant une alerte au tsunami, alerte locale. Le tremblement de terre, il s'est produit à une profondeur de 15 kilomètres et à quelques 283 kilomètres de Suva. Suva, c'est la capitale des Fidji. Jovenel Moïse a été confirmé président élu d'Haïti avec 55,6% des suffrages au premier tour de scrutin. Ce sont les résultats officiels et définitifs publiés donc sur le site internet du Conseil électoral provisoire. Résultat qui met peut-être fin à un très long processus électoral initié en 2015, peut-être, hein, parce que on ne sait jamais comment peut réagir évidemment la rue. La chasse à l'homme se poursuit après l'attentat particulièrement meurtrier d'Istanbul la nuit du jour de l'an. L'assaillant présumé n'a certes toujours pas été arrêté, mais son profil s'est précisé. Les autorités turques ont diffusé même son portrait. Hein. Il serait originaire d'Asie centrale. L'homme se serait installé en novembre dans le sud du pays avec son épouse et leurs deux enfants pour ne pas éveiller les soupçons avant de rejoindre Istanbul, peu de temps avant le carnage. Pour le moment, les autorités turques ont procédé à une quinzaine d'interpellations des personnes qui pourraient être liées de près ou de loin à cet attentat. Demander le programme, tardivement entré en campagne dans la primaire à gauche, Manuel Valls et Vincent Peillon ont donc présenté hier leurs grandes lignes, les grandes lignes de leurs projets respectifs, avec notamment une thématique européenne. Manuel Valls souhaite réformer le pacte de stabilité qui limite les déficits budgétaires à 3% du PIB, le produit intérieur brut. Il en réclame, je cite, une application intelligente. Vincent Peillon, quant à lui, évoque un New Deal européen ainsi que la création de gardes-frontières européens. Le retour
oui, mais
aussi.
Pardon, je trouve que vous caricaturez un peu, hein, mais
oui, c'est trop simple.
Oui, c'est pas si simple.
C'est survolé.
Je crois qu'il faut détailler. Voilà. Il faut rentrer dedans, je crois. Thierry Paré. Okay. Là-dessus, sur cette histoire,
des marques mal.
Il y a à boire et à manger, je crois. Là-dedans.
François Fillon, le retour de François Fillon. Il se revendique gaulliste et chrétien. Il a annoncé 3 chantiers prioritaires s'il est élu. Au programme du candidat de la droite à l'élection présidentielle, la sécurité publique, le travail et la fiscalité. Il était invité du 20h de TF1 hier soir. François Fillon, il a réaffirmé donc les grandes lignes de son programme, la suppression des 35 heures et la réduction de 500 000 emplois de fonctionnaires.
Non, j'étais précis, non, là. C'est pas 500 000 si emplois. Non, c'est pas exactement. C'est plus 498. Vous voyez, soyez vraiment précis, les gens. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte de la vie.
Mais les gens ne peuvent pas savoir que vous faites partie du comité de soutien de François Fillon. Si c'est compliqué de.
Ne rebondissez pas sur nos conneries. D'accord. Restez une. Tracez votre. Vous êtes une flèche.
Parfois, le sort d'un seul individu reflète la complexité d'une société entière. L'affaire du soldat israélien Azaria en est le parfait exemple. Après des mois de procès, le tribunal militaire de Jaffa va se prononcer aujourd'hui sur la culpabilité ou non d'Elor Azaria dans sa mise en examen pour homicide involontaire en mai 2016. Il avait abattu un Palestinien qui gisait à terre. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lui s'inquiète d'une éventuelle initiative du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'État d'Israël après la conférence de Paris sur le Proche-Orient qui est prévue le 15 janvier. Il a promis de faire le nécessaire pour s'y opposer. Polémique en Argentine autour de la détention d'une personne. C'est une femme qui s'appelle Milagro Sala. C'est une dirigeante associative. Elle est emprisonnée depuis près d'un an. Même l'ONU exige sa libération. Milano Sala est une figure populaire qui a fait construire des milliers de logements sociaux dans une province du nord de l'Argentine. Les autorités l'accusent de tournement de fond. Pour l'opposition, elle est simplement devenue la première prisonnière politique du nouveau président de centre droit, Mauricio Macri, qui a succédé à Cristina Kirchner. La France et le Panama qui vont entamer à Paris ce mois-ci des négociations pour renforcer leur coopération en matière fiscale. Paris a placé le pays latino-américain sur sa liste des paradis fiscaux à la suite du scandale des Panama Papers. La vidéo avait suscité l'indignation. Elle montrait des supporters du club de football de Chelsea empêchant à deux reprises un homme noir de monter dans le métro à Paris en chantant à tue-tête leur fierté d'être raciste. C'était en février 2015. Quatre de ces supporters ont été condamnés hier à des peines de 6 à 12 mois de prison avec sursis. Et ils doivent aussi verser 10 000 euros à la victime. Et puis le PSG a annoncé la signature de Julian Draxler en provenance de Wolfsburg. Le milieu offensif allemand s'est engagé jusqu'en 2021. Il est champion du monde avec les Allemands.
Oui, mais je crois que c'est simplifié. C'est pas Hatman, vous avez écouté le gentil.
Oui, on peut plus.
On peut plus.
10 000 euros chacun. Les
non,
supporters
non, tous ensemble.
Bah alors voilà, c'est ça. Vous voyez les gens, vous vous rendez pas compte. Il est 7h05. C'est pas, mais je vous dis, c'est les gens veulent du. Voilà. C'est là. Oui. Alors, on va se répartir les trucs aujourd'hui. Qui prend, alors les 30 qui font le foot français, couverture de l'équipe, qui prend
Méné chez lui, vous l'appelez.
Alors on va appeler Christophe Méné qui est bon en foot. John Berger, ce philosophe qui est mort, c'est pour Thomas Baumgartner. Vous allez nous expliquer qui est le critique d'art, qui c'était. Arnaud,
oui, bonsoir.
Vous allez faire quoi?
Je sais pas, peut-être juste je vais être plastique.
D'accord.
Je serai là.
On nous reproche beaucoup de dire bonsoir si tôt le matin, ce qui laisse planer des doutes sur notre hygiène de vie. Thierry Paret, vous revenez dans une demi-heure, mais soyez vraiment, vous voyez ce que je veux dire.
On va essayer, oui.
Travaillez un tout petit peu à l'américaine.
J'ai bien compris,
à l'américaine. Hein. Donc voilà, puis il y a plein de choses, des invités. Je ne peux pas tout savoir, je viens d'arriver. Arrêtez de m'engueuler. À tout de suite. Alors on continue à se répartir un peu tout ce flux d'informations qui arrive sur les ordinateurs, dans la presse écrite, la presse papier, dans le bouche-oreille, dans les cafés, les métros. Marie Missio, vous allez parler de quoi
Je ne sais pas.
Vous préparez votre vue de presse de tout à l'heure. C'est qu'il y a des gens qui ne la connaissent pas parce qu'ils écoutent la première tranche-oreille de l'émission. Et j'ai lu tous les chiffres qui attestent que ce ne sont pas les mêmes ceux de maintenant. Donc
non.
On peut répéter la même chose dans une heure. Ah, il y a un podcast, alors, on est piégé.
C'est incroyable, c'est sur Internet. Alors, je ne sais pas de quoi je vais parler, mais je suis très contente parce que il y a des astronomes, l'Agence spatiale européenne et plein de gens qui ont décidé de renommer plein d'étoiles. Alors, ils ont fait un taf de fou. Ils ont pris plein d'étoiles. Par exemple, ils ont décidé que Alpha Andromedae, elle s'appellerait maintenant Alpheratz.
Moi, ça me change des choses dans la
oui,
vie. Je suis content de l'avoir appris. Est-ce qu'on peut, à un moment, on pouvait donner son nom à une étoile? Ça n'existe plus.
J'ai l'impression qu'ils sont vachement plus méticuleux là-dessus qu'avant. ils sont j'ai l'impression qu'ils sont plus droit.
On peut plus acheter un nom. Qu'est-ce qu'il y a à te mettre? Vous faites des gestes.
Oui, je pense que l'étoile du Nord, par exemple, va s'appeler l'étoile des Hauts-de-France. Je trouve ça pas mal.
Très fin. Je trouve ça très fin. On va voir si tout le monde est d'aussi bonne humeur ce matin. Depuis plusieurs mois que nous avons commencé cette émission, nous l'appelons régulièrement. Kader est chauffeur de VTC. À chaque fois que nous l'appelons, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il est de bonne humeur. On va vérifier. Bonjour Kader.
Oui, bonjour, bonne année.
Bonne année Kader.
Là. Tu vas bien?
Ben oui, ça va. Tu es en train de travailler là?
Bah ouais.
Donc tu es en
tarmac.
Ça doit pas être facile. À 7h10, tu es au boulot depuis quelle heure?
Depuis exactement 6h45, je suis sorti de chez moi.
Tu es en colère?
Non, pas du tout.
Bah,
pourquoi
si.
Tu veux que je sois en colère?
Bah, c'est dur quand même, 6h45. En plus, il y a beaucoup de problèmes dans le monde du VTC. Tu dois être un petit peu remonté là, non? Tu dois être énervé? Ah, ça a coupé. Ah, pour une fois, j'aurais gagné. Pour une fois, il est vraiment. Allô? On va le rappeler. Tout de suite, en attendant, une créature vient d'entrer dans le studio. Juste avant qu'on rappelle Kader, c'est un petit personnage qu'il est difficile d'identifier. On va avoir tout de suite son petit générique.
Mignon, 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 mi. Mignon, 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 mi. Mignon, mignon, mi. Mignon, 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 mi. Ammoniacal.
Bonjour, Ammoniacal.
Bonjour.
Ça fait longtemps que tu n'es pas venu.
Oui.
On peut rappeler qui tu es?
Ammoniacal. Je suis Ammoniacal.
Te décrire, parce que les gens parfois ne regardent pas bien leur radio.
Ah oui, eh bien, je suis moitié pingouin, moitié homme et moitié chiffon.
C'est ce qui me semblait. Mais c'est très frappant à l'œil, plus qu'à l'oreille peut-être. C'est dommage
qu'on voit pas.
Atmen n'est pas, se sent pas très bien. Ammoniacal, tu as passé des bonnes fêtes?
Oui.
Tu as une famille?
Oui, mais je n'ai pas vraiment connu parce que depuis que j'ai été opéré, j'ai oublié.
Ta famille, ce qui t'évite les repas de famille pour Noël.
Oui, mais c'était ça. J'ai un ami coquetier.
Pardon?
J'ai un ami coquetier.
Coquetier, c'est le petit truc dans lequel on met les œufs à la coque?
Un coquetier jaune en bois.
Ah, et donc tu as réveillonné avec lui? Vous avez mangé quoi?
Des œufs.
Bah oui, forcément. Tu as des résolutions. Tu as des résolutions pour cette année?
Oui, je jure de ne plus rôter.
Pardon? Bon, tout de suite, on rappelle, on laisse la maniaque de côté. Tout de suite, il est de bonne humeur depuis un an. On le retrouve, il est il est à la tête de son VTC. Tout à l'heure, on a cru qu'il avait raccroché. Kader, tu as raccroché tout à l'heure, tu étais furieux?
Je sais pas pourquoi ça a coupé, désolé.
D'accord. Donc, Kader, est-ce que dans cette nouvelle année, on peut parler d'un chauffeur de VTC en colère, un homme de mauvaise humeur en parlant de toi?
Non, ça c'est pas possible.
Mais tu es pas de très bonne humeur là, il fait mauvais, il fait froid, c'est la nouvelle an, c'est reparti pour 3 mois de boulot, on sort de vacances.
Hein? Il fait mieux qu'avant-hier déjà.
Quoi?
Il fait mieux qu'avant-hier, il fait 3 degrés.
Ben c'est mieux, mais oui, bon d'accord, c'est mieux, ok, soyons positifs. Mais tu as fait la fête le 31 décembre, tu as fait quoi?
Moi j'ai bossé le 31.
Mais c'est horrible.
Attends, c'est le noyau dur, c'est là où je suis le plus de bif.
Mais t'es furieux, t'as la rage.
Mais pourquoi j'aurais la rage?
Il est content de tout, ça m'énerve. Hein, pousse-le ton...
50 euros, 60 euros, pourquoi je serais VEF?
T'as fait 50, 60 euros?
Par transfert, ouais.
Ah oui, d'accord.
C'est majoré
ouais.
De fou.
Mais tu...
Avec le chauffeur privé, on s'est régalé.
Mais tu es de mauvaise humeur sur la rentrée, là, ou pas? Tu as
non,
peur?
Bah non, parce que ça se passe bien, ça travaille.
Non, mais pourquoi tu as peur pour l'avenir? Tu me dis, j'ai peur pour l'avenir, la France fout le camp,
mais
l'Amérique...
Non, apparemment, ça va tremper, là, en 2017.
Oh, bah en plus, s'il y a du jeu de mots à 7h14, bon, salut, Kader. On te souhaite une très bonne journée.
Ouais, c'est cool, hein. N'hésite pas à m'appeler quand tu veux.
Merci.
Mais je t'en prie, allez, plein de bonnes choses.
C'était Kader, l'homme de bonne humeur du matin. Ammoniacal, tu as écouté Kader?
Oui.
Tu as un petit message pour lui?
Ben, je voulais lui dire que ça fait plaisir de voir quelqu'un qui... une chose de cette façon.
Toi, tu es pas très heureux, Ammoniacal?
Si, moi, je suis plutôt positif, mais à chaque fois, les gens, ils s'essuient avec moi, alors.
Ils s'essuient avec toi, mais avec la partie chiffon, donc ça va?
Oui, non.
Avec une autre partie?
Quoi? Oui.
Bon, écoutez, il est 7h15 et je n'ai rien appris pour le moment, tout de suite. Good Day Sunshine, Atman, on vous entend dans le disque là.
Oui,
vous êtes dans le disque là, c'est la moindre des choses.
Et je vais les mettre dans le disque des Beatles.
Quand je fais venir des groupes ici, soyez gentils, les laissez travailler. C'est déjà assez de payer un voyage pour un groupe aussi nombreux. Thomas Baumgartner, souvent on entend parler des grands artistes, des grands penseurs de notre époque le jour de leur mort, mais c'est mieux que jamais. Qui était John Berger qui vient de mourir?
John Berger, c'était un... Alors il n'aimait pas le mot critique d'art, mais c'est ce qu'il était aussi, ce qu'il a rendu un peu célèbre dans les années 60 en Angleterre. Il est parti d'Angleterre au début des années 60 pour habiter en Savoie, donc il est aussi très francophone et francophile. Puis c'est un écrivain qui a remporté le Booker Prize en 72. Mais surtout, enfin, il a écrit jusqu'à la fin de sa vie, aux éditions de l'Olivier, souvent en France. Et ce qui était intéressant, ce qui est intéressant de revenir sur son parcours, c'est le fait que c'était quelqu'un qui nous aidait à voir, à regarder. Et dans Libération aujourd'hui, il y a un petit article de Judicaël Lavrador qui lui rend très bien hommage. Et dans les années 60, en 72, voilà, il avait fait une émission à la BBC, il apparaissait à l'écran face aux spectateurs, il a regardé dans les yeux. Et il a dit ça: ce soir, ce n'est pas tant les peintures elles-mêmes que je veux prendre en considération, mais bien plutôt la manière dont on les voit maintenant dans cette seconde moitié du XXe siècle, parce qu'on voit ces peintures comme personne ne les a vues auparavant. Si on parvient à comprendre pourquoi, alors nous découvrirons aussi quelque chose sur nous-mêmes et le contexte dans lequel nous vivons. Donc il nous apprenait à regarder la peinture pour mieux nous regarder nous-mêmes, aujourd'hui, ensemble, dans une forme de collectif. Il y a une forme de sagesse aussi dans ce qu'il écrit, John Berger.
Donc d'apprendre à regarder, d'apprendre à écouter. C'est joli le titre, L'art du regard.
Oui, oui, The Art of Looking, c'était le titre d'un documentaire que la BBC lui a consacré il y a 2 ans. Voilà.
Donc, bon, bah, alors il est temps, il on est l'a temps vu, de on se l'entend. Pencher sur son travail. On a un autre travail très différent qui est celui de Pat, notre ami Pat, qui normalement est ici tous les matins. Il tient le Café Nova. Pat Good Vibes est bloqué chez lui à Angers. Pat, comment ça va?
Bah, ça va très bien, Edouard, et toi?
Bon, bah alors tu es allé un petit peu enquêter à Angers, on t'a demandé de te balader un petit peu en France et d'aller sonner chez les gens pour vérifier s'ils écoutaient.
Absolument, mais ce matin, j'ai sonné partout et personne n'a répondu. J'ai l'impression que les gens dorment encore.
D'accord, j'ai l'impression que tu as beaucoup sonné de chez toi.
Oui, de chez moi, j'ai sonné à ma propre porte, voilà. mais la sonnette ne marche pas, donc je n'ai pas pu ouvrir, c'est ça le problème.
Quoi. Schizophrénie, paresse, affabulation?
Oui, les deux.
Les trois. On t'embrasse très fort. Tu es habillé comment à cette heure-ci?
Oh là là, j'ai mis le jean. Eh ben là, je me suis habillé très tôt et j'ai mis un beau jean magnifique, tout neuf, tout
ça
propre.
Ça peut être très beau.
Un pull.
Bien sûr. Je vous le dis à vous aussi qui êtes chez vous, ça peut être très beau. Un jean, un t-shirt. Je crois que vraiment, on est vraiment à la bonne franquette ce matin. On a un petit peu de pub? Oui. Eh ben alors.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h. Une actualité extrêmement actuelle.
Mais Arnaud, vous me disiez pendant la liste, vous êtes allé jouer en Nouvelle-Calédonie, là ?
Jouer, tout à fait. Mais en Nouvelle-Calédonie.
Mais ça ressemble... Alors, c'est quoi la Nouvelle-Calédonie ? Parce qu'on en entend parler quand il y a des problèmes politiques, mais c'est comment ?
C'est une île au milieu du... Enfin, pas au milieu du Pacifique, à, j'imagine, 1000 km de la Nouvelle-Zélande, qui fait 500 km de long.
C'est le caillou, 500 km contre eux.
Non, le caillou, c'est pas la Réunion.
Ouais, c'est tout.
Pardon, mais non, c'est vrai, c'est ça.
Le galet aussi.
Donc c'est quand même assez grand, il y a 500 km de long sur 60 de large à peu près.
C'est pas assez vécu. Quand
c'est un département français.
Mais dites-moi l'ambiance.
L'ambiance, eh bien, Nouméa, ça représente pratiquement presque toute la population. Il y a 150 000 habitants avec la. Il me semble, je dis un peu des chiffres comme ça.
Elle
va vite. J'en ai rencontré pas mal. Et sinon, l'île, elle fait 200 000 habitants. Donc, il y a Nouméa, une sorte de Vierzon mal urbanisé, assez mal urbanisé, mais avec les cocotiers.
Vierzon, dans le sens, c'est vraiment une ville provinciale, un peu
Dans le sens où c'est assez mal fait au niveau organisation. C'est assez... J'espère qu'il y a... Non, ça va, personne ne nous écoute
non,
là-bas.
Non, non.
Ça, c'est laid.
Ici non plus.
Ça, c'est laid dans le...
Mais vous
dans
n'aimez pas Vierzon non plus?
Oui. Si, j'aime Vierzon. Mais si vous voulez, c'est...
Et Vesoul, vous aimez Vesoul ou pas?
Vesoul,
c'est dans la chanson. T'as voulu voir Vesoul et on a vu.
On doit dire des trucs sérieux ou?
Mais non,
je sais pas.
Alors on est au téléphone. On a cette mère de famille nombreuse que, de temps en temps qu'on appelle pour savoir comment on s'organise dans une maison avec quatre enfants. C'est Astrid. Astrid, c'était bonjour.
Bonjour.
Astrid, vous habitiez le Limousin, vous n'habitiez plus le Limousin, donc déménagement en cours d'année, changement d'organisation, et puis c'est la première fois que Élouan, l'aîné, était scolarisé, là, hier, ça a commencé hier.
Exactement.
Comment s'est passée la rentrée?
Alors, je pense que sa mère était plus stressée que lui. Qui avait
vous parlez de vous à la troisième personne, donc déjà, délire mégalomaniaque chez vous. Hein.
Je suis démasquée. Donc non, ça s'est bien passé, c'était très sympa, il était très content, je crois, socialement, de voir autre chose. Et puis, pour moi, c'est vrai que ça me permet d'avoir un enfant de moins, ce qui n'est pas complètement négligeable.
Oui, parce que vous éluiez vos quatre enfants à la maison, les cours étaient à la maison.
Exactement.
Et là, il y en a un qui part pour l'école et il était content. Donc, il faut le dire aux autres enfants. Et rentrer, et il n'a pas eu peur parce que les autres se connaissent depuis le premier trimestre et lui, ça s'est bien passé.
Non, il est très sociable, très sympa. Et donc, du coup, il s'est bien adapté. L'accueil a été vraiment agréable et appréciable pour ce petit garçon. Donc du coup, ça s'est très bien passé. Je suis ravie.
Deuxième jour d'école, Élouan va partir aujourd'hui de chez lui. Quel va être le rituel? Tout le monde, ses frères et sœurs sur le pas de la porte avec un petit mouchoir?
Alors carrément pas, parce que le mercredi, il n'y a pas d'école.
Oh, tout le monde est contre
moi. Donc ce sera demain.
Tout le monde est contre moi. Vous auriez pu me mentir, vous savez, ça n'aurait pas nuit. Donc aujourd'hui, quelle va être l'ambiance avec les quatre enfants à la maison?
Ah, ça va être le travail quand même scolaire du coup de l'aîné qui a déjà bien rempli son cahier de texte et puis le rythme d'une famille entre guillemets normale avec quatre enfants de moins de 6 ans, donc le petit déjeuner, les organisations, les activités, on s'ennuie pas.
Eh bien, je vous laisse pour le rituel du petit déjeuner. On va partir sur quoi ce matin?
On va partir sur mon baril de café, hein, qui est toujours là.
Le fameux baril de café, pour ceux qui avaient écouté il y a un mois, c'est la tradition à 7h30, le grand témoin de 7h30. Merci Astrid.
Merci beaucoup, très bonne journée.
Atmen Khelif, bonjour, vous êtes spécialiste de la réinsertion de l'adulte en milieu scolaire,
oui.
Puisque vous avez encore placé deux quinquagénaires en
oui,
CP,
qui n'avaient pas le bac,
non, des octogénaires en CM2, vous dites que ce n'est pas toujours facile pour un enfant de 7 à 8 ans de voir arriver un voisin de classe de 80 ans.
Oui, surtout ce sont des personnes qui se lèvent souvent pour aller aux toilettes pendant les heures de cours.
Non, pas ce sketch-là.
Mais c'est pas un sketch.
Alors le journal de Thierry Paré, je suis désolé.
Radio Nova.
Marisol Touraine annonce la suspension de la commercialisation de l'Uvestérol D, hein, que l'on donne aux nourrissons pour leur développement osseux. Cette décision de la ministre de la Santé fait suite au décès d'un nourrisson le 21 décembre qui venait de prendre ce produit. Hein. La polémique enfle hein, depuis la réaction, puisque la réaction des autorités sanitaires a été assez tardive, même très tardive. La terre a tremblé au large des Fidji, ou plutôt le fond de la mer a tremblé, puisque ce séisme d'une magnitude de 7,2 s'est produit à une profondeur de 15 km et à quelques 283 km des côtes de Suva, c'est la capitale des Fidji. Jovenel Moïse a été confirmé président élu d'Haïti avec 55,6% des suffrages au premier tour du scrutin. Ce sont les résultats officiels publiés par le site internet du Conseil électoral provisoire. Résultat qui met peut-être fin à un très long processus électoral initié en 2015. La chasse à l'homme qui se poursuit après l'attentat particulièrement meurtrier d'Istanbul la nuit du jour de l'an. L'assaillant présumé n'a certes toujours pas été arrêté, mais son profil s'est précisé. Les autorités turques ont même diffusé son portrait. Il serait originaire d'Asie centrale. Pour le moment, les autorités turques ont procédé à une quinzaine d'interpellations de personnes, donc des personnes qui pourraient être liées de près ou de loin à cet attentat. Parfois, le sort d'un seul individu reflète la complexité d'une société entière. L'affaire du soldat israélien Azaria en est le parfait exemple. Après des mois de procès, le tribunal militaire de Jaffa va se prononcer aujourd'hui sur la culpabilité ou non d'Elor Azaria, qui a été mis en examen pour homicide involontaire en mai 2016. Il avait abattu un Palestinien qui gisait à terre. La France et le Panama vont entamer à Paris des négociations pour renforcer leur coopération en matière fiscale. Paris a placé le pays latino américain sur sa liste des paradis fiscaux à la suite du scandale des Panama Papers. La vidéo avait suscité l'indignation. Elle montrait des supporters du club de football de Chelsea empêchant à deux reprises un homme noir de monter dans le métro à Paris en chantant à tue-tête leur fierté d'être raciste. C'était le 17 février 2015. Quatre de ces supporters ont été condamnés hier à des peines de 6 à 12 mois de prison avec sursis. Et ils doivent, alors tous les quatre, hein, verser 10 000 euros à la victime. Pas chacun, hein, tous ensemble. Le PSG a annoncé la signature de Julian Draxler, milieu offensif allemand qui évoluait à Wolfsburg jusque ces derniers jours. Il s'est engagé jusqu'en 2021 avec le club de la capitale. Et puis pour finir, au chapitre « C'était mieux avant », les ventes de disques vinyles en Angleterre ont atteint l'an dernier leur meilleur niveau depuis 25 ans.
C'est bien ce chapitre « C'était mieux avant ». J'aime bien. Vous avez vu les 30 joueurs qui font le foot dans l'équipe, Thierry Paret ou pas?
J'ai vu ça vite fait, oui.
Dites-moi pour vous les joueurs qui font le foot français.
Français.
À part Atmen, Arnaud, moi.
Français.
Je vais voir si vous êtes comme si vous avez voté comme l'équipe.
Mais tu sais, moi, le football, en même temps, je suis
pas... Oh, merde, je sais pas, vous pouvez me sentir un petit Deschamps.
Bah, je sens bien les Giroud, tout ça. Bah, voilà, mais bon, oui, Griezmann, tout ça, voilà.
Et le 29e, c'est Wendy Renard, que je ne connaissais pas. Tout de suite dans la rue avec Jacques Souvent. Où est-il? Dans quel quartier? Vers qui tend-il son micro? Bonjour, Jacques.
Bonjour, bah, je tends le micro vers personne.
Ah.
Dans l'hôtel Meurice.
Et si personne ne répond, c'est que ça valait le coup.
L'hôtel Meurice, vous connaissez?
Un grand palace parisien. J'ai fréquenté le bar en note de frais à une époque.
Voilà. Donc là, les trottoirs sont en mosaïque. Hein. C'est des petits. Voilà. Le M du Meurice est tenu par des lévriers, je crois.
Oui.
Alors, au menu, vous avez du tronçon de turbo, pâte à l'encre de sèche, coquillage.
Ça, c'est le petit déjeuner?
Ouais, si vous voulez. Ouais. Il y a homard breton, salsifis braisé, hibiscus. Et moi, mon préféré, c'est poulette de la ferme de Culoiseau, légumes au pot, tartufi d'Alba. Voilà.
Ça, c'est en marchant dans la rue, vous tombez sur ce menu? Ben,
je tombe là-dessus parce que, en fait, il y a des sapins de Noël encore partout ici. C'est très illuminé. Et ça m'a fait penser à une histoire. À l'hôtel Meurice, il y avait Orson Welles qui a rencontré Edmond Richards, qui était l'inventeur du Caméflex. Le Caméflex, c'était donc Orson Welles voulait rencontrer ce monteur. Parce qu'il a inventé la caméra qui faisait pas de bruit à l'époque du cinéma muet. Et ils se sont rencontrés ici, et moi j'avais rencontré ce monteur, et il m'a raconté qu'Orson Welles faisait 130 kilos, lui il en faisait 50, et qu'à l'hôtel Meurice, Orson Welles bouffait avec ses doigts tous les plats que je viens de citer là.
Alors vous voulez dire que, en fait, vous vous mettez dans l'intimité d'Orson Welles, parce que vous avez rencontré quelqu'un qui l'a rencontré. Donc ouais, moi, en vous rencontrant, vous qui avez rencontré le mec qui l'a rencontré, je suis pote avec Orson Welles. Hein, c'est ça. Vous savez, Salvador Dali habitait là aussi. Dites-moi, vous avez parlé de sapin de Noël devant l'hôtel Meurice. Quel est le problème? Comment se passe la réinsertion du sapin de Noël qui est un type qui a un emploi très saisonnier, quoi?
En joaillerie, c'est réaccommodé sur un petit piédestal avec. C'est en vente. Hein, c'est
on peut porter en joaillerie le sapin de Noël en bague ou en.
Ah oui. Ah bah, tout à l'heure, j'ai croisé quand même des petites broches sangliers.
Pas convaincu.
Des boutons de chemise à tête de loup avec des rubis. Hein.
Oui, je suis pas convaincu. Vous essayez d'entrer, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas des types avec des oreillettes qui vérifient
que. Chasser, c'est ça.
Je sais pas, déguisez-vous en Qataris, qui est votre second déguisement, faites quelque chose.
Ouais, faut que je le prenne dans le coffre de la voiture et puis je reviens.
Bon, mais il n'a pas l'air charmant, le mec, à l'entrée.
Non, mais vous savez, le charme, il y a le charme discret de la sécurité. Il y a beaucoup de tendresse derrière le coup de poing.
Ouais,
à tout de suite, Jack Souvent, on veut entendre des sons. Je voudrais entendre des gens vivre dans la rue. Non pas que je n'aime pas votre voix, ni votre corps d'albâtre.
Je vais essayer de rencontrer quelqu'un.
À tout de suite. Vous êtes superbe et souple.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Bonjour Thumo Mudine.
Bonjour.
Vous êtes chercheur, enseignant, spécialiste de littérature turque, vous êtes romancier, vous êtes directeur de la collection Lettres turques chez Actes Sud, et c'est vous qui publiez Asli Erdogan, dont on vient d'apprendre avec grand plaisir la libération il y a quelques jours. Bienvenue.
Merci.
Face à vous, je vous propose ce que j'ai de mieux en ce moment, c'est Thomas Baumgartner. Juste, moi, je suis toujours intéressé quand il y a un invité vient si tôt le matin, ce que sont vos horaires habituels?
Oui, tout à fait. Enfin, c'est même un peu tard pour moi.
C'est l'heure où vous allez vous recoucher?
Oui, pratiquement.
Parce qu'on dit, vous savez, il y a toute une théorie sur les écrivains du jour et les écrivains de la nuit, et tout un truc de Roland Barthes. Là-dessus, vous êtes plutôt un écrivain de jour ou de nuit?
De nuit, c'est-à-dire tard dans la nuit et tôt le matin.
Donc vous finissez le matin et les idées vous viennent, ou vous êtes quelqu'un qui allait les chercher la plume à la main?
Plutôt comme ça, oui. La plume à la main. Oui.
Vous forcez le...
Ouais.
D'accord, je vous remercie. Voici Thomas.
Oui, Asli Erdogan, écrivain turc, qui a été enfermé pendant 136 jours donc en prison à Istanbul. Et 136 jours de prison qui ont pris fin lundi, qui ont pris fin ce week-end, en fait, pour suite à une libération conditionnelle.
Vendredi soir,
hein, en fait. Une libération conditionnelle, non pas définitive. Vous la publiez donc, vous, Timur Mudine, en France, dans cette collection Lettres turques. Comment va-t-elle aujourd'hui, Asli Erdogan?
Apparemment, elle va très bien. C'est-à-dire que la sortie a été très joyeuse. Bon, on a eu pas mal d'images, et entre autres des petits films sur YouTube qui la montraient vraiment ravie, sous la pluie, les cheveux trempés, et l'air un petit peu raplapla, mais quand même très, très, très contente. Et depuis, elle a l'air pleine d'une énergie nouvelle et folle, qui nous fait très plaisir, parce qu'on pensait qu'elle sortirait peut-être déprimée, fatiguée. Elle doit être fatiguée, mais elle est en pleine forme. Et d'ailleurs, elle a déjà... produit quelques déclarations assez acides pour le pouvoir turc. Elle n'a pas attendu.
Et le procès a repris lundi. Pour le moment, il y a une suspension en fait, du procès?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une audience lundi assez rapide et on lui a dit « vous êtes libre jusqu'au 14 mars ».
Alors, il ne faut peut-être pas penser que... Enfin, il ne faut pas prendre le cas d'Asli Erdogan comme un cas général d'une forme de détente en Turquie. C'est même plutôt le contraire.
Oui, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un... Bon, comme c'est un cas exemplaire qui a été beaucoup médiatisé, on s'est quand même beaucoup battu pour elle pendant tout l'automne. J'ai l'impression que ça a marché, je ne suis pas sûr à 100%, mais enfin, on a l'impression que cette mobilisation a donné quelque chose. Et puis, il y a les 140 autres journalistes, quelques écrivains, mais surtout des journalistes, qui croupissent en prison.
Il y en a un autre journaliste qui a été arrêté le jour même de la libération conditionnelle.
Le jour même, Ahmet Çök, un journaliste très connu d'ailleurs, qui a ramassé beaucoup de prix en Europe, a été arrêté. Donc symboliquement, ça veut dire on en prend un, on en lâche un.
Par contre, il y a quelque chose qu'on comprend aussi dans le cas d'Asli Erdogan, c'est que c'est devenu, son cas en tout cas, est devenu à la fois un cas symbolique et un cas diplomatique, parce que c'est la mobilisation, en particulier en Europe, qui a quand même beaucoup joué dans la mise en avant de son cas et peut-être dans cette libération conditionnelle.
Oui, alors quand vous dites un cas diplomatique, c'est effectivement le cas, mais très tardivement. Et on a beaucoup regretté que l'engagement diplomatique, et pas uniquement de la France, de l'Allemagne, puisque ça concerne aussi l'Allemagne, l'Italie... j'ai l'impression que la Grande-Bretagne aussi, est venue assez tardivement parce qu'il y avait cette pression énorme.
Elle a été arrêtée au mois d'août.
Qu'est-ce qu'elle a écrit qu'est-ce qui fait qu'on est enfermé aujourd'hui en Turquie quand on est écrivain?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Au mois de juillet, ça a été les fameux gulenistes, c'est-à-dire ceux qui auraient supposément comploté pour le putsch raté. Et puis tout de suite après, on est passé aux choses sérieuses en fait. C'est attaqué à ceux qui défendent les Kurdes. Donc un écrivain ou un journaliste turc de la majorité, vous savez, on dit turc blanc, c'est-à-dire les turcs classe moyenne, plutôt centre-gauche, qui s'occupent de cette question-là, on ne leur pardonne pas. Et donc elle représente exactement ça, c'est-à-dire ce qu'un turc éduqué et de bonne composition ne doit pas faire, c'est-à-dire prendre part, fait et cause pour les Kurdes.
Voilà. Il y a plusieurs actes d'accusation dans le cas d'Asli Erdogan, et notamment appartenance à une organisation terroriste, parce qu'elle a écrit régulièrement dans un journal qualifié de pro-kurde.
Et pas seulement pro-kurde, il est pro-PKK, c'est-à-dire que le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est en guerre avec l'État turc depuis d'abord de nombreuses années, ça a commencé quand même dans les années 80, puis 90, il y a eu un regain. Et depuis deux ans, évidemment, c'est très, très chaud. Alors, effectivement, le journal soutient ce parti, qui est le seul, finalement, enfin, avant le HDP, qui avait gagné, enfin, qui avait beaucoup progressé aux élections de 2014. C'est le seul parti, mais il est les armes au poing. Donc, c'est un parti considéré comme terroriste, y compris par des pays européens, d'ailleurs. Alors ça, c'est inacceptable pour l'État turc, c'est-à-dire défendre cet aspect de la kurdité, ça ne va pas du tout.
Alors les Kurdes, on entend parler ici que depuis qu'il y a tout un mouvement kurde pour la libération de régions en Syrie. Mais il y avait à Paris, moi, quand j'étais gamin, est-ce qu'il y a toujours ce quartier dans le 10e arrondissement où vous voyez toujours sur les murs, il y avait des affiches du PKK, il y a toute une communauté kurde.
Il n'y a plus tellement les affiches, effectivement, ça c'était les années 80. Après le coup d'État de 80, on a vu beaucoup de réfugiés politiques. Et il y avait ces affiches du PKK qui étaient très implantées.
Il y avait des restaurants kurdes, il y a toute une petite communauté kurde. Il y a toujours ça dans le 10e.
Oui, il y a toujours. Et dans Paris, en fait, il y a une communauté turco-kurde. Souvent, ils sont de nationalité turque, mais ce sont effectivement, ils se revendiquent comme kurdes. Voilà, en Allemagne, c'est encore plus important.
Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, paraît un livre d'Asli Erdogan que dans votre collection, Timon Muhyiddin, Lettres kurdes chez Actes Sud.
Lettres turques.
Lettres turques, pardon.
Pas encore Lettres kurdes. Voilà. Ça viendra.
Faire très, très attention.
Ne renvoyez pas les gens en tôle sur une petite phrase de journaliste
sur
le matin.
Oui. Alors, que, c'est quoi ce livre, Le silence même n'est plus à toi?
Donc, c'est un recueil de chroniques parues dans ce journal incriminé. Donc, finalement, ce sont les chroniques qui l'ont envoyé en prison, partiellement. Enfin, certaines d'entre elles, parce qu'il y a 5 textes qui sont incriminés. Donc, au mois de septembre, je vais à Istanbul et je rencontre son éditeur qui me dit « On va publier les chroniques pour montrer un petit peu au public ce qu'il en est. » Et puis, très vite, il me dit « On ne peut pas le publier. C'est l'état d'urgence. Il nous est impossible de publier ce livre. On va avoir des ennuis. Donc, vous pouvez le faire en français, éventuellement. » Donc, on s'est dépêché de choisir... Donc 29 textes sur 50, et de le publier le plus rapidement possible pour donner à lire, non seulement aux Français, mais en Europe, puisque c'est la première traduction. Hein, la première seule traduction. C'est la seule existence de ce livre pour l'instant, on va dire au monde, puisque les Turcs ne peuvent pas le lire.
Elle cite un moment un extrait d'un poème de Georges Seferi. « À l'heure où les dés heurtent le sol, à l'heure où le glaive heurte l'armure, à l'heure où, rencontrant ceux de l'étranger, les yeux des âmes expirantes s'emplissent d'amour, à l'heure où, regardant alentour, tu ne vois que pierre hachée, main morte, et ses yeux qui s'éteignent, à l'heure où désormais même mourir t'es refusé. » Et j'en fumais ma lapsus. C'est très beau.
Oui, c'est-à-dire que c'est tout à fait... Alors, c'est pas d'elle, puisque c'est de Seferis, mais c'est tout à fait dans la ligne de ce qu'elle écrit. C'est-à-dire, c'est une écriture politique et poétique. Et c'est pas facile. Non. C'est donc assez exceptionnel.
Timon Muhyiddin, que devient la Turquie aujourd'hui? Il y a eu l'attentat à Saint-Sylvestre la semaine dernière. Quelques jours avant seulement, il y a eu plusieurs autres attentats dans le pays. Et à chaque fois, plusieurs dizaines de morts. Que devient la Turquie aujourd'hui?
Mais la Turquie est déjà devenue quelque chose. C'est-à-dire, particulièrement depuis les attentats de l'an dernier, l'attentat de l'aéroport, vous en souvenez, ensuite les attentats d'hiver... qui ont ensanglanté le pays, y compris en décembre. Alors celui de la Saint-Sylvestre est très emblématique, puisqu'il rappelle le Bataclan et qu'il y a quand même beaucoup de morts. La Turquie dérive dans une période de guerre assez, assez dure. Pendant longtemps, on disait que c'était les Kurdes qui mettaient les bombes. On ne savait pas exactement. On suppose que parfois c'était eux, parfois ce n'était pas eux. Cette fois-ci, c'est Daesh. Et on paye un petit peu la politique que mène l'État turc en Syrie. L'armée turque est très engagée. Il y a eu encore un acheminement de convois militaires, de blindés énormes ce week-end. Donc c'est un pays qui est en guerre. En fait, il y a ces affaires, évidemment, de répression politique et de post-putsch. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est un pays en guerre et qui vit avec une économie aussi, une sorte d'économie de guerre en ce moment.
Et comment vivent les Turcs, comment vivent-ils cette situation-là aujourd'hui? C'est quoi l'atmosphère, par exemple, aujourd'hui à Istanbul?
Alors, c'est-à-dire, d'une part, la vie continue pour tout le monde, c'est-à-dire que chacun va au travail. Bon, j'ai eu l'occasion de raconter qu'au Salon du Livre, la production littéraire et intellectuelle est extrêmement forte et brillante, c'est-à-dire il n'y a pas de baisse. Mais beaucoup de les fonctionnaires ont beaucoup peur d'être licenciés. Maintenant, ils ont peur d'être dans un attentat, en réalité. Les gens, le commerce en souffre beaucoup, évidemment. Hein, ça, c'est le tourisme... pratiquement, enfin, il n'est pas nul, mais le tourisme d'Europe occidentale s'est pratiquement arrêté. Mmh. Remplacé par un tourisme russe et qatari, en fait. Bon, si ça peut équilibrer l'économie turque, tant mieux.
Ah, ils ne sont pas pareils que nous, hein, dans les hôtels et les restaurants. Moi, je peux vous dire, on va nous regretter beaucoup. Merci, merci beaucoup, Timo Mudin. Je rappelle, le livre d'Asli Erdogan est sorti aujourd'hui. Le silence, même plus, n'est plus à toi, chez Actes Sud.
Et la reprise du procès, c'est le 14 mars, c'est ça ?
14 mars pour la suite.
Oui. Merci beaucoup.
Merci.
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Édouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
Jean-Noël Mistral, ça va ?
Bonsoir.
Jean-Noël,
oui, ça va bien.
En regardant le jeune Émile, 9 ans, est-ce que vous voyez un futur poète en lui ?
Je vois comme une flamme s'allumer, comme une flamme qui s'allume à l'intérieur de son regard. Et je sens là toute la fraîcheur, la candeur de quelqu'un qui sait regarder et qui n'écoute pas, mais qui regarde à l'intérieur de lui, pas de l'extérieur.
Un enfant, un poème. Salut Émile. Tu regardes un petit peu. Est-ce que c'est le poème que tu vas nous dire, c'est un poème que tu as appris à l'école ?
Oui.
Tu l'as appris difficilement ou ça a été facile ?
Assez difficilement.
Alors moi, ma fille, elle a du mal à apprendre ses poèmes. C'est quoi ton truc, toi ? Tu les réécris à la main ? Tu les récites à tes parents ? Comment tu fais ?
Je reprends la feuille et je récite ensuite à mes parents.
C'est merveilleux.
D'accord. Et tes parents, tu as l'impression qu'ils aiment bien te faire travailler tes poésies ou parfois ils en ont un peu marre ou s'ils aiment bien te faire travailler ?
Non, ils aiment bien.
Alors on va t'écouter. Comment s'appelle ton poème ?
Mélancolia.
Alors on l'écoute avec plaisir.
Mélancolia. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans dont la chemine seule, ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstres hideux qui ne mâchent on ne sait quoi dans l'ombre, innocents dans un bagne, anges dans un enfer, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire à Dieu, petit comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes.
Victor Hugo. Jean-Noël Mistral, il y a une joie de vivre cachée dans ce poème de Victor Hugo. Bon, bien cachée, bien sûr, mais je crois que Émile a su à la fois mettre de la profondeur, de l'intensité, puis quand même une petite flamme d'espérance.
C'est incroyable parce que quand j'écoutais le poème et que je regardais Émile en même temps, j'ai l'impression qu'Émile avait disparu et que se penchait carrément Victor Hugo à l'intérieur de sa bouche. C'est comme si cet enfant avait 180 ans de sagesse et en même temps 5 ans de candeur. Et ça faisait une moyenne de 85.
Oui, 85 plus 5, c'est 92,5 par personne. On peut faire avec 3 par 3, ça fait 60. Et 5 par 3, ça fait 61 années, 5 sur 3 personnes.
En tout cas, c'était bravo. C'était bravo, j'ai envie de dire.
Tu as du plaisir à dire ce texte, Émile, ou pas ?
Oui.
Est-ce que tu as l'impression, quand on dit quelque chose de dur, de triste, de fort, ça nous libère un peu
Un peu.
Est-ce que tu as un enfant battu ? À la maison ?
Moyen.
Moyen, parce que je vois ton père qui est là et qui a une sorte d'objet à la main qu'on pourrait... C'est quoi ? C'est une sorte de fouet, de cravate ?
C'est une sorte de fouet avec des clous.
Oui, c'est une... Monsieur, venez nous voir. Venez nous voir. Qu'est-ce que c'est que c'est, hein ?
C'est inouï de dire des choses pareilles le matin.
Ah oui, ah mais le soir, c'est vrai. J'adore le père qui apprend que son fils est battu. Écoutez.
Non, mais la femme écoute.
Mais c'est peut-être elle, on ne sait pas. Qui tape le plus, c'est papa ou maman ?
Papa.
Voilà. Eh bien, c'est interdit, monsieur. Alors, on va régler tout ça avec un disque. Émile, tu vas à l'école maintenant ?
Oui.
Tu me disais, l'école est le seul refuge, vu ce que je vis à la maison, c'est le seul. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Émile, merci d'être passé. On te laisse partir en direct à l'école avec papa, pendant que Jean-Noël Mistral peut-être va nous dire un poème de son cru, qui est un hommage à Victor Hugo, Jean-Noël ?
Oui, tout à fait, c'est un hommage
allez faire une cellule de réconciliation père-fils avec Émile et son père, allez tout de suite dans la cellule psychologique à côté, voilà. À tout de suite, merci mon vieux. Bonne école, cher monsieur. Je le salue. Au revoir. Merci.
Appelle la DAS.
Jean-Noël Mistral, tout de suite avant Thierry Paret, peut-être quelques vers qui vous ont été inspirés.
C'était un poème que j'ai du mal à redire parce que je l'ai écrit sur une feuille de sèche.
On aura peut-être du mal à écouter aussi.
Peut-être. Une feuille de sèche, ça n'existe pas.
D'accord.
Une poule est morte. Une poule est morte. Elle n'avait pas encore atteint l'âge adulte. Elle n'avait pas encore pondu plus d'une douzaine de boîtes d'œufs. Elle avait encore ce sourire qu'on prête à la fraîcheur d'une source sauvage. Elle avait encore cette vicissitude, ce besoin de connaître, cette soif de séduire. Elle donnait, à qui veut l'entendre, des chaloupements d'arabesques, de sultanes, de plumes. Elle marchait, ergonue, à chaque doigt des bagues de plastique qui la mettaient en valeur. Elle donnait à voir comme un bon fromage ou une bonne courge torride. Elle donnait plaisir à voir vraiment cette poule. Mais elle n'a pas vu la fourche qui dormait.
Jean-Noël Mistral, un elle poème que vous avez du mal à dire aussi peut-être pour parce que ce que se dit ce poème, la puissance, l'intensité.
C'est mal écrit parce que j'étais trop ému. Mais
l'émotion transparaît très très fortement. Jean-Noël, est-ce que c'est basé sur des faits réels ce poème?
Oui, ben bien sûr. Toute ma poésie est réelle. C'est le monde qui l'est pas.
Le monde est devenu fou, vous dites dans un autre vers, le monde est devenu fou, il est aveugle du cœur et du cul.
Du cul, mais c'est le cul dans ce sens au Moyen-Âge, c'est-à-dire à la fin du monde.
Bien sûr. Merci beaucoup pour ce moment, le journal de Thierry Paret, avec une minute de retard. Radio Nova.
Bah c'est peut-être aussi la fin du monde, tiens, pour Charles Manson. Il vit peut-être ses derniers instants, hein, l'un des plus célèbres criminels des États-Unis, commanditaire de l'assassinat de l'actrice Sharon Tate. Il a, selon le New York Times, quitté sa prison californienne dans un état grave. Il a été hospitalisé. Le gourou meurtrier, hein, à la fameuse croix gammée tatouée sur le front, est âgé de 82 ans. Il est emprisonné depuis 40 ans. La polémique va-t-elle désenfler? Marisol Touraine, en tout cas, annonce ce matin la suspension de la commercialisation de l'Uvestérol D, que l'on donne aux nourrissons afin de favoriser leur développement osseux. Cette décision de la ministre de la Santé fait suite au décès d'un nourrisson le 21 décembre qui venait de prendre ce produit. La réaction des autorités sanitaires a été très tardive. La terre a tremblé au large des Fidji, ou plutôt le fond de la mer a tremblé puisque ce séisme d'une magnitude de 7,2 s'est produit ce matin à une profondeur de 15 km à quelque 283 km de Suva. Suva, c'est la capitale des Fidji. Pendant que la terre tremble au large des Fidji, la Chine étouffe dans le brouillard. Pékin a été placé en alerte rouge, le niveau le plus élevé. La visibilité y est souvent inférieure à 50 mètres. Plusieurs aéroports ont été fermés, de même que plusieurs entreprises particulièrement polluantes.
Non, vous caricaturez, pardon de me mêler, mais je trouve que c'est pas si simple.
C'est un faux bâclé.
C'est bâclé, je trouve ça approximatif. C'est pas ça.
Jovenel Moïse a été confirmé président élu d'Haïti avec 55,6% des suffrages au premier tour de scrutin. Ce sont les résultats officiels publiés sur le site internet du Conseil électoral provisoire. C'est un résultat qui met peut-être fin à un très long processus électoral initié en 2015. La chasse à l'homme qui se poursuit après l'attentat particulièrement meurtrier d'Istanbul la nuit du jour de l'an. L'assaillant présumé n'a certes toujours pas été arrêté, mais son profil se précise, il s'est précisé même. Les autorités turques ont diffusé son portrait. Il serait originaire d'Asie centrale. Pour le moment, les autorités turques ont procédé à 16 interpellations de personnes qui pourraient être liées de près ou de loin à cet attentat. Plus de 150 détenus se sont évadés cette nuit d'une prison du sud des Philippines qui a été attaquée par des dizaines de combattants islamistes présumés. Après des mois de procès, le tribunal de Jaffa va se prononcer aujourd'hui sur la culpabilité ou non du militaire israélien Elor Azaria qui a été mis en examen pour homicide involontaire en mai 2016. Il avait abattu un Palestinien qui gisait à terre. La France et le Panama vont entamer à Paris des négociations pour renforcer leur coopération en matière fiscale. Paris vient de placer cette semaine le pays latino-américain sur sa liste des paradis fiscaux suite au scandale des Panama Papers. Le football est rongé par le racisme. Certains supporters minoritaires vont au match comme on irait à la guerre. En février 2015, une vidéo avait suscité l'indignation. Elle montrait des supporters du club de football de Chelsea empêchant à deux reprises un homme noir de monter dans le métro à Paris en chantant à tue-tête leur fierté d'être raciste. Quatre de ces supporters viennent d'être condamnés à des peines de 6 à 12 mois de prison avec sursis. Ils doivent aussi verser ensemble, 10 000 euros à la victime. Et c'est le PSG qui tire le premier. Le club a annoncé la signature de Julian Draxler, le milieu offensif allemand qui évoluait à Wolfsburg, s'est engagé jusqu'en 2021. Et puis pour finir, l'Australie commencerait-elle à subir les effets nocifs du tourisme de masse qu'elle encourage depuis une quinzaine d'années. Des milliers de jeunes se sont réunis, c'était le 24 décembre, sur une plage de la ville de Randwick pour festoyer jusqu'au petit matin. Tout à leur honneur, me direz-vous, sauf que quelques heures et beaucoup d'alcool plus tard, la plage ressemblait tout simplement à une déchetterie à ciel ouvert. Les autorités estiment à environ 15 tonnes le poids des déchets laissés sur place. Le maire de la ville de Randwick, donc, a décidé d'interdire l'alcool dans les espaces publics jusqu'à la fin de l'été, parce que c'est l'été sur place en ce moment.
Non, j'ai écouté, tout est, il y avait des choses formidables qui m'ont aidé
pour la journée. Ça partait bien au début.
Non, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses. Moi, je me dis, je suis chez moi, j'écoute Thierry Paret, j'apprends des choses qui me permettent de ne pas être un citoyen endormi.
Oui, tout à fait. Mais au bout d'un moment, on se dit quand même, il pourrait un peu plus creuser.
C'est ça, parce qu'autant, bon, moi, je suis citoyen, donc j'ai envie de savoir ce qui se passe dans mon pays et dans le monde, ça, oui. Mais
on a envie.
Mais autant,
on se dit, non, on pourrait avoir mieux.
Non, je dirais qu'on pourrait peut-être être plus tranchant, peut-être
prendre position.
Ou au contraire, être plus neutre, plus franc.
Voilà.
Je trouve que c'était en plus un petit peu... C'était mesquin, il y a eu des mesquines.
Il y a eu de la fauche dans les mots.
Il a fourché. Et puis je trouve que les liaisons n'étaient pas là.
Oui.
Les dentales, les sifflantes ne sonnaient pas, les dentales ne percutaient pas.
On peut mieux faire le trimestre prochain.
Non, mais c'est pas tellement Thierry Paret, c'est l'info elle-même qui m'a déçu. C'est mon pays.
On va pas tout avoir.
Ah, j'ai mal à ma France. On va dans la rue tout de suite. Thierry Paret était en train de sillonner les dangers urbains. Vous étiez dans Paris, premier arrondissement. À votre gauche, les Tuileries. À votre droite, un palace parisien. La peur rôde. Où en êtes-vous, Thierry? Thierry, je brûle tous les prénoms. Je trouve que tous les mecs se ressemblent un peu à certaines heures du jour. Jack Souvent, vous êtes où?
Oui, ça y est, c'est revenu la mémoire. On est en train de courir.
Vous courez?
Oui, je cours. Je cours avec Eddie.
Comment?
Eddie.
Pourquoi vous courez, Eddie, comme ça?
Pour se tenir en forme, pour éviter de grossir, pour profiter de la vie.
Pourquoi ne pas grossir? Regardez Marlon Brando.
J'ai 40 balais, mec. Après, si je vais en concert, j'ai mal au dos, moi.
Mais il y a des beaux gros, j'ai des très beaux gros, ai plein de studio.
En plus, vous faites 60 kilos à tout casser, non? 58.
On est dans les jardins des Tuileries, là?
Oui, c'est ça. Alors, ok.
Est-ce qu'on est sur un vêtement très technique, Jack Souvent? Est-ce qu'on est dans des vêtements en tissu d'acier, sur des chaussures triple semelle qui permettent d'amortir le pas sur le bitume?
Je sais pas, mais j'aimerais bien avoir ces semelles. Mais en tout cas, c'est très moulant. Et ce qui est marrant, c'est que comme il fait un peu nuit ici, les joggeurs, on les repère avec le téléphone portable allumé sur le bras, un peu comme un brassard. Alors on voit des petites lumières qui courent comme ça, j'en peux plus. Oui, pour pouvoir prendre la distance, notre corps, savoir si on a performé, combien on a perdu.
Eddie, je vais vous envoyer une batterie de questions. Est-ce que vous êtes prêt, Eddie?
Allez-y.
Allez, c'est parti. On est sur combien de kilomètres depuis le départ tout à l'heure?
Depuis là, 5 kilomètres.
D'accord. Combien de grammes disparus déjà depuis que vous avez commencé à courir? Ça doit être sur votre montre.
Là, après, bon, pour l'instant, pas grand-chose. Mais c'est à partir de 6 kilomètres que ça devient efficace.
On est sur du plat, il y a de la pente, il y a de la montée, il y a de la descente?
Là, c'est du plat.
On ne peut pas s'arrêter deux secondes.
Non, on continue. Non. Au niveau sudation, on est sur quoi? Est-ce que tout ça est contrôlé ou est-ce qu'il y a du vêtement qui s'imbibe?
Avec un temps comme ça va encore.
Est-ce que l'œil est sur l'objectif, l'œil est sur la performance ou est-ce que l'œil est un petit peu distrait par quelques joggeuses? C'est chez nous, ça.
J'avoue qu'à Paris, les Parisiennes sont très belles.
Je l'ai bien aimé. Il y avait un truc un peu...
Non, on est en train de faire du statique.
Il va mourir.
C'est mieux. Il va mourir. Ça fait du bien.
Jack Souvent, décrivez-nous Eddie tel que vous le vivez dans cette aube naissante.
Eddie, je ne sais pas comment décrire Eddie. Déjà, c'est de récupérer mon souffle. Eddie, c'est petite basket fluo.
Oui.
Avec un petit pantalon qui est très collé.
Bien sûr.
Au corps, peut-être pour avoir plus de sensations.
Oui, c'est ça, moi, Eddie.
Et puis pour plaire aux filles, me dit-il, pardon.
Ce matin, Eddie court à travers les Tuileries. Il veut rattraper sa vie. Il ne voudrait pas prendre du poids. Il voudrait que son regard croisent d'autres regards, ils voudraient aiguiser l'attention des jeunes femmes qui courront peut-être ce matin et dont les pieds mous, souples et beaux et pédicurés fouleront la pelouse des Tuileries. Vas-y, cours, Eddie. Cours vers ton destin. Jack et le vieux monde sont derrière toi. Cours vite, mon grand. À tout de suite. Bravo.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Un truc spécial. J'étais dans un truc
Montessori. Attends, je ne comprends pas. Mais bon, on va passer à l'antenne dans quelques instants. Donc, remettez vos petits costumes de l'émission. 8h14 et 23 secondes, c'est une tradition recevoir un écrivain, un livre. Aujourd'hui, il s'agit de Gargoyne Berkin pour ces soirées-là aux éditions du Motel. Gargoyne, approchez-vous du micro qui n'est pas votre ennemi, mais au contraire un moyen de transmission de votre pensée à tous les auditeurs. Bonjour.
Bonjour.
C'est pas le nom de tout le monde, Gargoyne Berkin. Ne s'agirait-il pas d'un pseudonyme? Comme par exemple Batman, quand il y a Lolita Coquine, n'est pas votre vrai nom, c'est votre nom internet.
Il fallait pas le dire. Oui.
Gargoyne, vous êtes, je crois que c'est un pseudonyme parce que vous avez un autre métier qui est professeur de français.
C'est cela même, oui. Je suis au Blanc-Ménil dans un collège, le collège Coton.
Coton. Vivre dedans, c'est coton.
Avec deux T.
Ah, pardon.
Voilà. Et donc, Gargoyne, oui, il faut bas les masques. Gargoyne est un pseudonyme.
Parce que vous me disiez, je ne veux pas que mes élèves sachent que derrière ce professeur de français austère, mais juste, il y a un écrivain inspiré.
Ils le savent pourtant déjà.
Ah bon?
Oui.
Vous leur avez dit?
Ils le savent, il y a des grands frères, des familles.
Est-ce que vous avez le droit de fourguer vos livres, de les vendre à vos élèves ou aux
directement
familles?
Directement sous le manteau devant le collège, oui. Évidemment. Oui,
c'est et ce puis que, même là, d'essayer de dire, je crois qu'il ne serait pas mal, madame, pour que votre fils ait une meilleure note, d'acheter ces soirées-là, mon
ça,
nouveau
oui,
livre.
Oui, la note dépend évidemment du nombre de livres achetés par famille.
Alors, c'est un livre très étonnant, ces soirées-là. Vous avez imaginé, ce sont des récits, je crois, imaginaires, hein, je ne trahirai
oui,
pas le secret,
ça, oui.
de rencontres.
Ce sont des petites chroniques mondaines, il y en a 365, et c'est Gargoyne Berkin, est donc un personnage qui a rencontré de nombreuses personnalités, des personnages historiques, des cénacles culturels, politiques, et qui, dans ce livre, raconte un petit peu les dessous de ces rencontres, qui révèle finalement la vraie nature de tous ces personnages qu'il a rencontrés.
Alors on est entre les... C'est Pollard, comment s'appelle le mec qui faisait ces bandes dessinées rock où il imaginait des rencontres entre Elvis et Gainsbourg et tout ça. Ça me reviendra. Et les mémoires d'un vieux con de Roland Topor. C'est quelqu'un qui a vraiment connu tout le monde.
C'est absolument personnage. Tout le monde. Il doit y avoir 500 noms. Il y a un index à la fin. On peut piocher directement selon le nom que l'on veut trouver. Et oui, il y a à peu près 500 noms donc il a rencontré. Bah, ça va de Tex à Rihanna, en passant par Jean Baudrillard, Lyndon Johnson.
De mélange. Il y a beaucoup de monde. On appellerait les people de Jésus à Cyril Hanouna. Alors on va tout de suite. Atmen Kelif du Conservatoire national de l'art dramatique va nous en lire quelques extraits.
« Je n'accepte pas qu'une femme cultivée rentre chez moi », affirma le premier. « Tu as raison », renchérit le second. « Le génie n'appartient qu'aux hommes. »« Qu'elle se contente de prendre soin de nous », conclut le troisième avec son accent plein de bonhomie. La table ronde entre Ferré, Brel, Brassens, immortalisée par la fameuse photo, vira vite au cauchemar.
Voilà, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, il y a une petite tranche de vie. Et puis, il y a les
personnes
l'accent,
le dernier l'ont... accent proche de Charles Pasqua pour faire Georges Brassens, c'était parfait.
Oui, je trouve que c'était bien. Je trouve qu'Atmen, vous avez pris une situation et vous avez su, à partir de là, trouver le personnage.
Ah, merci. Je suis très content. Merci de ce petit compliment. Il est rare.
Parce qu'il y a une artiste. Hein, vous me disiez, je trouve qu'il faudrait en faire des pastilles pour la télévision ou la radio.
On y a pensé, oui. On y a pensé.
Non. C'est moi qui vous y ai.
Non, oui, on y a pensé il y a peu de temps. Voilà. Dans ce studio.
Et vous me disiez, Atmen a su donner vie à mes personnages, ce que je n'espérais
oui,
plus.
Donc je compte sur lui.
Pour la pastille, oui, merci, ouais. Je suis là.
Comment se
passe votre travail, tous les personnages.
Oui, votre travail de comédien, c'est...
Eh bien, c'est beaucoup de souffrance.
Pour nous aussi.
Voilà, pour très peu de plaisir.
Alors tout de suite, on reviendra sur ces soirées-là avec d'autres extraits. Mais voici que s'avance Marie Missé dans son manteau. De je ne sais pas quoi,
caca
c'est
doigt.
Du coton. Je crois.
Qui c'est qui a dit qu'elle ne travaillait pas, qu'elle ne fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Bah si, c'est un peu cacadou.
Non, c'est la couleur, mais non, parce qu'il y a un truc que je voulais dire. J'allais purée de poids, dans la purée métaphore, de poids. Dans son manteau de promesse.
Ah, c'est une chose. Oh, vous allez voir. Bonjour, bonjour Edouard.
Bonjour, bonjour,
bonjour tout le monde. C'était mieux avant. Hein, c'est un truc qu'on dit souvent. C'est une rengaine qui revient sous plein de formes différentes. Aujourd'hui, par exemple, dans les pages du Figaro, où Pablo Larraín, le réalisateur du film Neruda, sur Pablo Neruda, dit « Neruda a combiné politique et poétique très directement et très clairement. Plus personne ne serait capable de faire ça de nos jours. Peut-être parce que les mots ne signifient plus grand-chose dans la confusion actuelle. » Voilà, les mots, par exemple, c'était mieux avant. Et puis, la rengaine, c'était mieux avant, s'est installée aujourd'hui dans les pages sciences et médecine du monde, dans un domaine où, franchement, je ne l'avais pas vu venir. Les hommes, c'était mieux avant. C'est en tout cas ce que déclare James Flynn, cité par Le Monde dans un article consacré aux limites que l'homme aurait atteint absolument dans tous les domaines. Nos enfants sont plus bêtes que nous, dit James Flynn, dont les gosses doivent être ravis, et les leurs risquent bien d'être encore plus stupides. Apparemment, des baisses de QI auraient lieu dans tous les pays développés, étudiés, et James Flynn n'est pas le seul à nous trouver de plus en plus cons.
C'est peut-être simplement que nos enfants sont plus jeunes que nous.
C'est oui, c'est peut-être une solution à laquelle James Flynn n'a pas pensé. Lui, il a une autre explication. Il pense que ce phénomène de débilité grandissante, eh bien, c'est un petit peu de la faute de la société qui propose de moins en moins d'emplois intellectuels et de plus en plus de jobs basiques. Le cerveau
société,
est un muscle. J'ai l'impression que je vais avoir du mal.
Monsieur, je vous demande de vous arrêter.
Détends un tout petit peu, pardon. J'ai besoin d'exercice physique, pardon.
Voilà. C'est sûr que quand on tourne la page du Monde et qu'on tombe sur l'article de Pierre Barthélémy qui explique que le temps consacré à plier du PQ dans les hôtels du monde entier serait de 10 millions d'heures par an, ce qui représente plier du PQ, vous savez,
dans
le... Plier. Quand on va dans les toilettes des hôtels, en général, le PQ est plié.
Mais bon,
il est plié pour que ça fasse propre, pour qu'on n'ait pas l'impression que quelqu'un l'utilise avant.
Ah, oui.
10 millions d'heures de travail, ce qui représente 5000 emplois à temps plein. On se dit que le travail n'aide pas toujours. Bon, si on est de plus en plus bête, autant rassembler nos capacités. Je ne sais pas si c'est le constat qu'ont dressé les participants au projet Human Lab, mais force est de constater que pour eux, la recherche avance plus vite. Human Lab, c'est à Rennes. Ils veulent développer la fabrication collective de prothèses. Alors, c'est des valides et des handicapés qui travaillent ensemble sur 5 projets de prothèses, prothèses auditives par exemple, mais aussi mains robotisées pour les handicapés ou ceux qui ont perdu leurs mains. Ils partagent leurs projets en open source et en creative commons, c'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ils le partagent sans le breveter et qu'à travers le monde, ceux qui utilisent les modèles de prothèses peuvent y apporter leurs améliorations, doivent surtout les partager. Concrètement, ça veut dire qu'Amadou Souley, par exemple, qui est un jeune Brestois qui travaille à Human Lab, va pouvoir installer un Handilab lui-même au Niger et que les prothèses qu'il fabriquera seront beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chères. C'est une façon de créer un homme réparé, puis peut-être un homme augmenté de manière collective. Et puis si l'humain ne suffit plus, si le pauvre est de plus en plus bête, ne satisfait pas au désir de progrès, de records dépassés, de toujours plus de certains, rassurons-nous, ou pas, les robots prendront bientôt le relais. Sur son site, le magazine futuriste Uzbek Eruka a ainsi fait la liste des 5 domaines où le robot a surpassé l'homme en 2016. Alors, le robot est meilleur que l'homme au jeu de Go, c'est un meilleur chirurgien, c'est un meilleur tueur, chouette. Uzbek Eruka envisage même que le robot puisse être un meilleur amant. C'est l'entreprise Abyss Creation, spécialisée dans la fabrication de poupées de silicone, qui va mettre sur le marché en 2017 un robot sexuel qui représente toutes les apparences de l'humain. Alors figurez-vous qu'au Congrès international sur l'amour et le sexe avec les robots, c'est un congrès qui existe, hein, il a eu lieu à Londres le mois dernier, un chercheur suisse s'est un petit peu inquiété. Si les robots surpassent les performances de l'homme sexuellement, eh bien les rapports sexuels entre humains seront de plus en plus rares. Il est temps de revenir sur l'interview du réalisateur de Neruda. De lui, on retiendra cette phrase. Je pense que la poésie est la seule chose qui peut nous sauver.
Merci infiniment, Marie Misset.
Vous avez été très dissipée,
Edouard. Oui, c'est mon corps, je vous prie de m'excuser. Les jeunes sont-ils plus bêtes? Les robots sont-ils meilleurs que nous? C'est justement la thématique de mon invité, Brigitte Boulard. Je suis avec Brigitte Boulard. Brigitte Boulard, vous êtes au Snackhead. Vous êtes à la tête d'un programme de mise en contact de jeunes et de robots. Beaucoup de jeunes qui ne connaissaient pas le monde de la robotique sont devenus amis des robots. Beaucoup de robots qui étaient esselés, qui étaient restés au stade mécanique, fréquentent des jeunes. Où en est-on de ce programme ?
Eh bien, en ce moment, nous avons réussi à atteindre un cheptel de 5 couples, robot-homme, robot-femme.
Alors, ils sont logés dans des établissements de la mairie de Paris. Ils sont sous surveillance caméra. Que donnent ces films, que donne le résultat vidéo de ces rencontres amoureuses humain-robot ?
Et ben c'est vraiment
dégueulasse.
C'est très agréable à voir. Ah oui. On a déjà vendu 50 000 exemplaires de la première vidéo.
vidéo voilà, avec un robot chien qui avait épousé un chat. Et c'est quelque chose. C'est quelque chose à voir.
Vous êtes vous-même une femme qui a, vous êtes aussi
je suis une femme.
De l'auteur de ce livre qui s'appelle Un appel au secours. Un appel au secours, c'est votre premier livre. Vous appelez au secours.
Non, c'est à l'aide.
À l'aide, c'est à l'aide. Ce livre qui s'appelle À l'aide est vraiment une envie de tendre la main vers l'autre. Et l'autre
quelqu'un qui
pas
tombe.
Manifesté.
Ah. C'est l'envie de, enfin, c'est le, comment dire, c'est le geste.
Le geste de temps. Mais pour relever ou pour être relevé? Peut-être qu'en relevant l'autre, on se relève soi-même.
C'est une sorte de communication entre une victime et la personne qui vient.
Son
bourreau, mais non, pas un bourreau réellement, un anti-bourreau, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui est.
L'anti-matière.
quelqu'un qui aiderait quelqu'un à ne pas tomber.
Voilà. Mais vous êtes donc à la fois ce programme robot être humain, à la fois ce livre à l'aide, plusieurs activités. Que mangez-vous à vos repas pour être
du
sûr
pain, du pain, beaucoup de pain. J'adore
du
le pain.
Du pain.
J'adore le pain.
Ne faites
la
pas
mie
ça
surtout.
Chez vous. Voilà. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Si vous êtes mis en contact de pain, commencez à nous appeler à Radio Nova. On n'a pas le numéro. À quel numéro ? 01. Si vous avez une histoire qui vous est arrivée récemment avec du pain, vous pouvez nous appeler sur le. Vas-y, écris-le.
Alors, pardon, le 01 43 07 58.
C'est 43 ou 47 ? Non, 43 07 58.
85.
Une, si vous avez une mésaventure, vous avez avec du pain récemment.
Même des cracras ou pas ?
À tout de suite. Non, non, non. À tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi ?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Regarde. Tout à l'heure, vous deviez appeler si vous aviez des anecdotes avec du pain. Le téléphone sonne de partout. Beaucoup de gens ont des souvenirs qui leur est arrivé avec du pain. Gargoyne Berkin, l'auteur de Ces soirées-là aux éditions du Motel, est toujours avec nous. Quelles sont ces éditions du Motel ? Je n'en avais pas entendu parler.
Alors, c'est une petite maison d'édition indépendante qui a été montée il y a un an et demi par les patrons du bar, le Motel. Javid a beaucoup travaillé sur cette première édition. Et pour l'instant, c'est le seul titre au catalogue.
Voilà. Voilà, mais alors, je ne connais pas du tout le travail des maisons indépendantes. Comment on arrive à être distribué dans les librairies ?
Là, c'est très artisanal. C'est-à-dire qu'on y va librairie après librairie. On démarche un peu tout le monde.
Et c'est facile ?
C'est pas simple.
Et là on peut trouver où votre livre ?
On peut le trouver à l'Arbre à Lettres, on peut le trouver au Motel, on peut le trouver dans un restaurant qui s'appelle Chez Dune, on peut le trouver. Il faut aller sur le site en fait, des éditions du Motel, hein, c'est leséditionsdumotel.fr, et précédé bien sûr de www. Et en bas de la page, il y aura tous les points de vente.
Un tout petit extrait que j'ai aimé. Abracadabra, ça se passe le samedi 1er janvier 1994. Abracadabra, les carottes râpées. Une fois l'entrée terminée, il repartit en cuisine puis revint. Abracadabra, les paupiètes de veau. Même manège au moment du dessert. Abracadabra, le citron givré. Il avait beau en faire des tonnes, tous les invités s'en rendirent compte. Le menu de la nouvelle année de David Copperfield n'avait rien de magique. C'est magnifique, c'est très beau et ça tombe bien parce qu'il est 8h30, autre beauté peut-être plus ancrée dans un réel salement quotidien mais qui va être transcendée par la voix de Thierry Paret, le rappel des titres.
Radio Nova.
Est-ce qu'on peut vivre jusqu'à 82 ans avec une croix gammée tatouée sur le front ? Oui, vous dirait Charles Manson, s'il était en mesure de parler. Oui, parce qu'apparemment, c'est pas la grande forme. Hein. L'un des plus célèbres criminels des États-Unis, commanditaire de l'assassinat de l'actrice Sharon Tate, a, selon le New York Times, et c'est pas le New York Times, mais le Los Angeles Times, quitté sa prison californienne dans un état grave. Il a été hospitalisé. Le gourou meurtrier est âgé de 82 ans, vous l'aurez compris, dont la moitié passée en prison. Un petit peu moins, 40. La polémique va-t-elle désenfler ? C'est pas certain. Marisol Touraine, en tout cas, annonce ce matin la suspension de la commercialisation de l'Uvestirol D, que l'on donne aux nourrissons afin de favoriser leur développement osseux. Cette décision de la ministre de la Santé fait suite au décès d'un nourrisson le 21 décembre qui venait de prendre ce produit. La réaction des autorités sanitaires a été pour le moins tardive. La terre a tremblé au large des Fidji, ou plutôt le fond de la mer, puisque ce séisme d'une magnitude de 7,2 s'est produit à une profondeur de 15 km et à quelques 283 km des côtes de Suva. Suva, c'est la capitale des Fidji. Pendant que la terre tremble au large des Fidji, la Chine étouffe dans un brouillard nuages très épais. Pékin a été placé en alerte rouge, carrément, c'est le niveau le plus élevé. La visibilité y est souvent inférieure à 50 mètres. Plusieurs aéroports ont été fermés, ainsi que plusieurs entreprises qualifiées de particulièrement polluantes. Jovenel Moïse a été confirmé président élu d'Haïti avec 55,6% des suffrages au premier tour du scrutin. Ce sont les résultats officiels publiés par le Conseil électoral provisoire. C'est un résultat qui met peut-être fin à un très long processus électoral puisque initié en 2015. La chasse à l'homme se poursuit après l'attentat meurtrier d'Istanbul la nuit du jour de l'an, particulièrement meurtrier même. Toujours 39 morts pour l'instant, bilan provisoire. L'assaillant présumé n'a certes toujours pas été arrêté, mais son profil se précise. Les autorités turques ont diffusé son portrait. Il serait originaire d'Asie centrale. Pour le moment, les autorités ont procédé aux interpellations d'une quinzaine de personnes qui pourraient être liées de près ou de loin à cet attentat. Plus de 150 détenus se sont évadés cette nuit d'une prison du sud des Philippines, attaquée par des dizaines de combattants islamistes présumés. Après des mois de procès, le tribunal de Jaffa va se prononcer aujourd'hui sur la culpabilité ou non du militaire israélien Elor Azaria, qui a été mis en examen pour homicide involontaire en mai 2016. Il avait abattu un Palestinien qui gisait à terre. La France et le Panama qui vont entamer à Paris ce mois-ci des négociations pour renforcer leur coopération en matière fiscale. Paris a placé cette semaine le pays latino-américain sur sa liste des paradis fiscaux suite au scandale des Panama Papers. Il y a un an, du fait du vieillissement de sa population, la Chine mettait fin à sa politique de l'enfant unique, autorisant les couples à avoir deux enfants. Et bah depuis cette décision, la Chine vit tout simplement un mini baby boom avec un million de naissances supplémentaires. C'est-à-dire que plus de 17 millions d'enfants ont vu le jour dans le pays le plus peuplé du monde l'an dernier. Le football qui est rongé par le racisme, certains supporters minoritaires vont au match comme on irait à la guerre. En février 2015, une vidéo avait suscité l'indignation. Elle montrait des supporters du club de football de Chelsea empêchant à deux reprises un homme noir de monter dans le métro à Paris. En chantant à tue-tête leur fierté d'être raciste, quatre de ces supporters viennent d'être condamnés à des peines de 6 à 12 mois de prison avec sursis. Ils doivent aussi verser ensemble 10 000 euros à la victime. Le PSG annonce la signature de Julian Draxler, le milieu offensif allemand qui évoluait à Wolfsburg. S'est engagé jusqu'en 2021 avec le club de la capitale. Et puis la météo. Contre toute attente, le temps va rester froid encore aujourd'hui avec l'arrivée de nouvelles chutes de neige, notamment sur le quart nord-est.
Alors tout de suite, merci beaucoup à Thierry Paret. Il était important que tout ça soit dit. Je crois qu'il fallait que ce soit fait. Merci de vous en être chargé, Thierry Paret. Tout à l'heure, nous avions appelé à des témoignages liés à des souvenirs sur du pain, des gens qui auraient consommé du pain, qui auraient été mis en relation avec du pain. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'appels. Tout de suite au hasard, monsieur.
Oui, allô.
Oui.
Bonjour.
Quel est votre prénom?
Bernard.
Vous appelez d'où?
J'appelle à côté du Mans.
À côté du Mans. Bernard, est-ce que vous-même, vous avez consommé du pain dans votre vie?
Oui, beaucoup.
Chaque jour?
Oui. En fait, parce que nous avons gagné avec ma femme beaucoup, beaucoup de pâté, en fait. Voilà. Et ma femme a fait son propre pain, je vous la passe.
On a eu juste...
Dans la recette.
Et puis bon, on n'avait pas assez de pain et puis...
Le pain sans sel.
Pour vous, le pain est lié à des souvenirs de douleur. Est-ce que par exemple, le pâté sans pain, c'est comme un baiser sans moustache?
C'est très très lourd, le pâté sans pain, monsieur.
Est-ce que dans la région du Mans, vous êtes plusieurs à vous rencontrer autour de cette passion du pain? Est-ce qu'il y a des clubs, des lieux de rencontre, des lieux d'échange de pain? Est-ce que sous le manteau, est-ce que sur Internet, est-ce qu'il y a des réseaux qu'on ne connaîtrait pas ici à la capitale?
Nous assurons beaucoup à l'association des pains polis. Je vous passe ma femme.
Non, pas trop, pas non plus. J'ai l'impression que ce truc de passer sa femme est une tradition.
C'est pas, on avait plein de passer, mais...
Mais dis-le, donne la recette.
J'ai l'impression que cette phrase « je vous passe ma femme » est une phrase courante dans votre bouche.
Oui. Nous étions avec des amis.
Oui.
Je dis que je te passe ma femme.
Merci beaucoup, tout de suite. Merci messieurs, dames, on vous retrouvera au Mans avec grand plaisir autour du pain et de votre femme. Et tout de suite, d'autres témoignages, allô?
Bonjour.
Bonjour monsieur, vous appelez comment?
Gilbert,
vous appelez d'où?
De Lorraine.
Lorraine, Gilbert, vous êtes quelqu'un qui... Vous êtes consommateur de pain?
Oui, un grand consommateur de pain.
En dehors des repas ou en accompagnement du repas?
Ouf, avec tout, on va dire.
Alors, on est sur un pain beurré, sur un pain sec, un pain baguette.
Un pain traditionnel, campagne, bien cuit, à la croûte bien épaisse et au cœur bien tendre.
C'est un pain que vous allez chercher vous-même en boulangerie?
J'allais régulièrement donc chez le même boulanger et malheureusement, j'ai dû changer de boulanger.
Est-ce à la suite d'un décès ou est-ce un choix personnel?
Je ne sens pas.
Non?
C'est à la suite d'une découverte un peu abracadabrante.
Nous sommes prêts à l'entendre.
Voilà, je vous explique. Donc, comme toujours, je vais chercher mon pain de campagne.
Oui.
Et j'arrive à la maison. Donc, le repas du soir arrive et on coupe le pain, classique. Et lorsque soudain, en croquant donc, dans une tranche de pain, aïe.
Aïe.
Un objet dur ou le réflexe, donc on déglutit.
Bien sûr, bien sûr.
Et de là, une molaire.
Oui. Oh. C'est votre molaire qui est passée ou il y avait une molaire déjà dans le pain ?
Non. Je cherche donc dans ma bouche. Oui. Vite fait. Je dis, mais c'est pas à moi, j'ai d'enseigne.
Je comprends bien.
Et on creuse un peu. Et donc le lendemain, je retourne à la boulangerie.
Ce qu'on aurait tous fait, bien sûr. Oui, oui.
Ben, gentiment, sans. Et en fait, la boulangère rappelle le boulanger derrière, et le boulanger, oh oui, en fait, ça lui était arrivé pendant la nuit.
Oui.
Il a perdu la molaire au-dessus du pétrin.
Et elle est tombée dans le pain.
Comme il avait une pâte de je ne sais combien de kilos, il a laissé faire, en espérant la retrouver au façonnage des baguettes du pain, mais malheureusement, il ne l'a pas retrouvée, et on l'a retrouvée.
Et je comprends le changement de boulangerie. Merci, monsieur, pour ce témoignage. On vous souhaite de tomber sur un meilleur boulanger. Sinon, pas plus honnête, puisqu'il n'y a pas de problème d'honnêteté ni d'indélicatesse, mais simplement peut-être moins distrait sur l'état de sa denture et de sa dentition, c'est-à-dire l'historique de ses dents. Merci infiniment, monsieur, pour ce témoignage. Voilà, je crois que nous venons tous... de vivre un moment fort, de comprendre que notre rapport au pain, qui est soi-disant la base de l'alimentation française, est un rapport passionnel. On est déçu de trouver une dent dans son pain, comme on est déçu de trouver un morceau de pain dans ses dents. Donc, si vous aussi, vous avez rencontré des problèmes avec votre alimentation, appelez-nous. François Rollin, vous êtes arrivé juste à ce moment-là. Vous étiez passé dans les locaux, je sais, pour vous faire payer des arriérés de notes de frais, puisque vous venez toujours ici en...
Mais justement, des frais de pain, ce qu'on appelle les frais de pain.
François, vous levez à peine parce que ça fait partie des jours où vous avez joué la veille à l'Européen, votre spectacle. Dont le titre doit rester secret ou on peut le dire?
Non, on peut le dire, ça s'appelle Le professeur Rollin se re-rebiffe.
Donc il y a une double biffade, il y a rebiffade et re-rebiffade.
Oui, parce qu'il s'est déjà rebiffé il y a 2 ans, mais là, le spectacle a été amendé, actualisé, repétri, remoulu, un petit peu redistillé.
François, j'ai une surprise pour vous, j'ai un tout petit micro-trottoir de gens qui sortent de votre spectacle. C'était comment le spectacle de Rollin?
Oh, vraiment, c'était bien!
Et toi, tu as aimé?
C'était super!
Dis donc, je me suis régalé, j'y retourne! Voilà, on a
génial,
pris.
Génial. Ça fait plaisir!
C'est pris à la. Ça continue.
Bonjour, je fais partie de l'association des gens pas très fiers et on n'est pas fiers.
Mais qu'est-ce que vous faites
quel
là?
Quel rapport?
Sortez.
D'accord, j'ai un rangement.
Donc François, de très bons échos sur votre spectacle. Est-ce qu'il reste, si par exemple je voulais aller à l'Européen ce soir, quel type de phrase, quel moment fort non, je pourrais
soir,
vivre?
Ce soir, vous ne pourriez pas, mais jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vous pourriez.
Alors je ne peux pas, parce qu'encore ces spectacles qui sont trop pleins et qui interdisent aux gens qui n'ont pas acheté à l'avance de venir.
Oh non, tout simplement, Edouard, parce que je ne joue pas le mercredi soir, tout simplement. Ah ben ça ne vous empêche pas de venir.
D'aller commencer à y aller.
Mais vous rirez moins, fatalement.
Alors je rirai de ma découverte.
Sera moins cher, puisqu'on vous laissera vous installer dans la rue comme bon vous semble, mais vous rirez moins. Quoi.
Dites-moi un moment une phrase qui va me laisser réfléchir et qui va me donner... je vais rester jusqu'à demain soir sur cette phrase.
Oh ben, probablement le moment où je cite Paul Valéry qui a dit « Le plaisir de l'émotion se surprend dans la jeunesse une nouvelle fois ». Et je précise ensuite que cette phrase n'a aucun sens parce que Paul Valéry l'a écrite un soir où il était totalement bourré, hein, à la bière belge. Et il était donc là dans sa flaque de vomi et criait « Je veux des frites, je veux des frites ». Et il disait « Et en plus, ça rime ». Tu m'étonnes que ça rime, c'est la même phrase. Mmh. Voilà.
On ira ce soir. On ira.
Pardon,
je vais faire la queue
pardon
ce soir.
Corner un peu la réputation de Paul Valéry, mais bon.
Et puis merci d'entrouvrir comme ça les mystères de votre spectacle, cher François.
Merci.
Allez frapper
vous,
au bureau de Bernard Zécry qui vous doit deux années d'arriéré. À demain, cher François, l'Européen. Merci.
7h-9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
7h, 9h, Edouard Baird.
Je passe une matinée, mon Dieu.
Jimmy, can we talk a minute? I've got some things that I need to get off of my chest. I know that we've had a few and it's far too late, but if I I've got some smokes if you've got a way. It's just that sometimes when I'm by your side, it feels so right. It feels like nothing could go wrong.
Je suis obligé d'arrêter ce disque sans méchanceté, j'irai m'excuser auprès de lui tout à l'heure, parce que le patron de Nova, Bernard Zécri, vient d'arriver. Bernard Zécri n'a pas 18 ans, or il porte un bonnet. J'en peux plus, et j'ai justement deux vrais jeunes. Les mecs, venez, vous avez quel âge ?
Alors nous, on a la vingtaine, voilà, plus précisément dans les alentours de 22 ans.
Et puis vous seriez plus genre de mec qu'on imaginerait en bonnet.
Ouais, tout à fait, mais non, c'est plus hype. Donc,
et là, tout à coup, arrive Bernard Zécri, qui on est sur du... Bernard, t'as quel âge maintenant ? 60. Et Bernard arrive avec... C'est, comment tu décrirais ça ?
Le hasbinisme.
Non, mais je veux dire... faut arrêter avec... Je te jure, il n'y a pas de raison, à la limite, à l'extérieur. Alors, sauf si c'est pour le plaisir de l'enlever devant une dame. C'est pour ça, Bernard. Bien entendu. Nous sommes... y a Stéphane Albouy, qui est le directeur des rédactions du Parisien et d'Aujourd'hui en France, et dans le TGV. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle je voulais lui parler. C'est que ce matin, dans le Parisien aujourd'hui, j'ai lu que ce journal avait décidé de cesser de faire paraître des sondages jusqu'aux élections. J'ai trouvé ça extrêmement courageux. Bonjour Stéphane Albouy.
Bonjour, je viens de retirer mon bonnet.
Oui, tout à coup, les mecs qui ont la truc, je n'ai rien à voir avec ce bonnet. Quelqu'un me l'a mis de force sur la tête. En plus, il y avait écrit nos futurs dessus, ouais. Ce qui n'est évidemment pas de bon augure sur l'avenir. Stéphane Albouy,
oui.
Est-ce que vous êtes les seuls dans la presse française qui avaient décidé de cesser de faire paraître des sondages politiques à tout va ?
Ben, oui, visiblement. Et je dois avouer que, d'abord, je suis ravi d'en parler avec vous ce matin. Et je dois avouer quand on a annoncé ça hier matin, on pensait pas que ça aurait un tel retentissement, parce que ça, en fait, ça fait le tour du monde, cette histoire. Et ça montre aussi, je pense, qu'il y a une attente un petit peu de ce point de vue-là. Et nous, c'est pas une attaque contre les sondeurs, hein, d'ailleurs, hein, notre démarche, c'est juste de dire qu'on a décidé d'essayer de travailler un petit peu différemment. Et de remettre au cœur de notre façon de bosser, notamment sur la campagne présidentielle. Ce qui est le cœur de notre métier, c'est-à-dire le reportage, le terrain, aller à la rencontre des gens, et essayer d'enlever pendant une période, en tout cas, ce filtre parfois que représente le sondage, qui est un petit peu, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui apparaît parfois comme un peu une solution de facilité dans notre métier.
Alors voilà. C'est vrai que le sondage amène forcément le commentaire du sondage, on commente les chiffres, il y a des spécialistes des chiffres, voilà. Et au final c'est Trump qui est élu, quoi, en gros.
Voilà, c'est ce qui peut se passer, même si la situation américaine est un peu particulière, parce qu'on s'est rendu compte que les Américains avaient voté en plus grand nombre pour Hillary Clinton, hein. C'est une petite subtilité un peu complexe, mais il y a eu plus de votes pour Hillary Clinton, c'est leur mode de scrutin qui a rendu possible l'élection de Trump. Mais effectivement, il y a eu pas mal d'approximations ou d'erreurs. Mais encore une fois, plus que les sondeurs, moi, ce qui m'embête depuis quelques temps, c'est peut-être l'utilisation qu'on en fait, nous, les médias. Et la présentation qu'on en donne fausse un petit peu la réalité, parce qu'on a l'impression qu'on donne une prédiction. Alors qu'un sondage, c'est un instantané, c'est une photo de l'opinion à un moment donné, et c'est en aucun cas une garantie de ce qui va se réaliser dans le futur. Donc on a décidé de sortir un petit peu de cette logique, de tenter l'expérience en tout cas et de voir ce que ça donne. Voilà.
Une prédiction, voire une incitation, parce que c'est vrai que beaucoup de gens finissent par se déterminer par rapport au sondage. Je laisse tomber, vu que mon candidat n'a aucune chance, donc j'arrête de croire en lui et de voter pour lui.
Il y a ce débat-là, c'est très difficile à mesurer, hein, effectivement, mais ça fait partie des éléments de réflexion. Ouais.
Et dites-moi, il y a les sondages et puis il y a aussi les commentaires sur les commentaires de la petite phrase off. Est-ce que ça va rester quand même la base du journalisme politique, ou est-ce que ça va aussi un peu s'atténuer ?
Alors, justement, moi, la volonté avec le service politique, c'est qu'on soit encore plus... Alors, au Parisien, vous connaissez le journal, évidemment, mais on a plutôt la réputation d'être sur le terrain. On a des éditions partout en Ile-de-France. On bosse beaucoup en banlieue. Mais là, notre volonté, c'est d'être en permanence, je dirais, sur les routes, en permanence au contact des électeurs, des Français. Pour vous donner un petit exemple, après après la primaire de droite et l'écrasante victoire de Fillon, on s'est dit on va mesurer, enfin, on avait pensé mesurer un petit peu l'état d'esprit de ce qu'on appelle le peuple de gauche, hein, les sympathisants de gauche. Et très vite, on s'est dit, bon, tiens, on peut faire un sondage là-dessus, etc. Et justement, on a dit non, on ne va pas le faire de manière classique, on va isoler et répertorier un certain nombre de circonscriptions qui sont connues pour être des bastions du PS, on va aller passer du temps dans ces communes, dans ces départements, et on va essayer de ramener, de humer un petit peu l'air du temps et de ramener l'état d'esprit. Et finalement, ça nous a pris plus de temps, sans doute plus de moyens, mais on en a fait d'ailleurs une manchette hein, du Parisien il y a quelques semaines sur le grand désarroi du peuple de gauche, mais qui a ramené quelque chose de plus senti, de plus humain, avec des témoignages, avec des militants, avec de vieux ou de jeunes électeurs. Et c'était aussi quelque chose d'intéressant. Alors, on n'avait pas de chiffres, ouais. On n'avait pas d'intention de vote, mais on avait, à mon sens, quelque chose qui était aussi très juste.
On parlait différemment. Merci Stéphane Albouy, je peux vous demander une chose à titre personnel ?
Allez-y.
Est-ce que vous pouvez remettre dans la page météo le lyrisme qu'il y avait avant ? Je ne sais pas qui écrivait avant la météo dans aujourd'hui, le Parisien.
C'est vrai que c'est un petit peu plus...
C'est juste des chiffres, là, justement. On est que dans les chiffres. Je ne sais pas quel était le mec qui écrivait ces textes formidables sur la météo.
C'était une équipe tournante. Qui
ah, j'adore.
C'est ça, oui. en plus du boulot quotidien, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses, c'est un peu plus neutre ces derniers temps. Mais
la météo...
Je prends la remarque.
C'est la base des conversations.
Et les mots fléchés aussi.
Non, mais ça, c'est vous, mon grand.
Non, les mots fléchés.
Voilà. Non, mais la météo du Parisien aujourd'hui, c'était vraiment... Et puis, c'est la base des conversations dans ce pays, on a raison. Salut, merci beaucoup, Stéphane Albouy.
Merci, Edouard. À bientôt. Aujourd'hui.
À bientôt.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
2h d'émission. Mais c'est beaucoup trop court.
Pardon, je sors d'une gigole. Il est 8h51. François Rollin, vous n'avez pas écouté la pub. Qu'en avez-vous retenu ?
Eh bien, parce que la pub, il ne faut pas forcément écouter les mots, les phrases et tout ça. Ça, c'est vieux jeu. C'est old style. Non, c'est les vibrations. Et dans les vibrations de la page de publicité qu'on vient de ne pas entendre, j'ai senti, encore une fois, l'envie de nous aider à vivre, de nous proposer des bons produits, moins chers, voilà, des bonnes occasions, des bonnes affaires. Un petit peu comme mon spectacle à l'Européen, qui est jusqu'au 15 janvier.
Parce que c'est la bonne affaire. Je crois qu'on allait voir votre spectacle, le professeur Rollin sur Bif à l'Européen. Comme en écoutant la pub, on n'est plus consommateur, on est citoyen.
Voilà. On devient tout simplement quelqu'un.
Bien sûr.
Un someone, comme disent nos amis d'outre-Rhin.
Oui, pas à l'étranger. Enfin, l'étranger, c'est vaste. Et là-bas, ils parlent d'autres langues incompréhensibles, avec des moustaches. Et puis, je crois, un homme debout, hein, François Rollin. Vous êtes assis, mais c'est une image. Oui, là, vous êtes. Merci. Tout de suite, la suite de la programmation musicale de Nova.
Je regarde loin, là-bas vers les couteaux qu'on a lancés dans des fagots à moitié nus. Tu m'encourageais quand je lisais tes vers. Victor, toi, l'homme qui m'a fait découvrir la sauvagerie d'hier, aujourd'hui, demain, je verrai danser des sarcophages englués dans des pâtes de velours.
C'est quel morceau, ça?
Pas,
hein, c'est qu'elle dise, qu'est-ce qui est passé là ?
C'est pas la programme.
C'est pas nous, c'est plutôt ça. Oui. Comme elles sont excitantes, ces 3 minutes avant 9h. Ces 3 minutes avant l'heure officielle d'ouverture des bureaux, ces 3 minutes où tout est encore possible, où on peut encore dire non. On peut ne pas ouvrir la porte, on peut ne pas y aller. Il sera toujours temps après pour s'inventer des excuses, pour dire... J'avais froid, j'étais seul, ne rentre pas trop tard, les mots des pauvres gens. Et puis le lendemain, avec son petit mot d'excuse écrit avec des fautes d'orthographe par sa maman, on recommencera à ne pas y aller. Et puis comme ça, de jour en jour, s'amoncelleront ses lettres d'excuses non rendues à son supérieur, à son prof. Et puis on sera libre et puis on sera jamais payé. Et ça va être la fin de l'émission et j'ai une extrême fierté, c'est de rendre l'antenne à tout petit peu plus tôt. Parce que vous savez que les 30 Glorieuses, très souvent, sont reniées de minutes. Cette émission s'appelle les 30 Glorieuses parce qu'elles font 30 minutes et très souvent, elles en font beaucoup moins. Et ça, je sais qu'il y a une souffrance des auditeurs. J'ai ce mouvement des fans de Yacine Bellatar qu'on appelle les Yacinites, les Yacinistes, qui sont des types qui arrivent avec des, vous savez comment ils sont, avec des moustaches, avec des trucs, des types avec des masses d'armes et des machins. Beaucoup arrivent du Moyen Âge et nous en veulent beaucoup, des Gaulois, des Sarrasins, beaucoup de médiévaux, beaucoup de gens reviennent. Arnaud Aymar, vous avez fait des très beaux bruits de bouche pendant cette émission.
Je suis spécialiste de bruits de bouche.
Enfin, il y a eu celui-là à un moment.
J'ai fait aussi ça. Voilà, et ça, c'est plutôt un bruit nasal.
Ce qui permet de gagner un tout petit peu de temps sur une question. Là, c'est, voilà,
ça, c'est l'assentiment.
L'hésitation.
L'assentiment hésitant.
Alors, la contradiction, ce serait. Et la déception Atmen, la joie.
C'est la jouissance, ça.
Oui, c'est un mélange des deux. Non, mais je veux juste revenir moi, sur le. J'ai menti à ma fille, juste le dire. J'ai descendu le sapin. Parce qu'il faut descendre les sapins et les virer.
Et il faut descendre le Père Noël et les sapins à la main.
Et j'ai déboulé le sapin hier soir.
Il a tué son sapin.
Alors, ne faites pas ça chez vous. Si vous avez respecté le, peut-être rangez-le et ressortez-le l'année prochaine.
Non, et là, il était vraiment craquant.
Et ben, on recolle les petites pépites. Merci au jeune Manu qui a réalisé cette émission en smoking. Merci à Eugénie Poumaillou
qui a quitté la France.
Merci à Atmen Kelly. Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Arnaud, est-ce que vous connaissez Thierry Paré?
Non, c'est qui?
C'est le mec à ta droite. À demain, merci beaucoup.
Édouard Baer.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.